Déborah, 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 bonjour. Déborah, thérapeute de la société Douce Essence, qui est née d'une passion pour le développement personnel.
Oui.
On va en discuter un petit peu.
Ça.
Alors, pas de casque alors.
Ah, mais mettre le casque.
Attends. Ah, mais c'est comme on veut.
Bonjour tout le monde.
Ben, bonjour Déborah. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Pourquoi la mise en place de cette société? Et donc, dont tu es thérapeute.
Exact, en énergie, bien sûr. Mm-hmm. Hein. Il y a un côté holistique à tout ça. Hein? Alors, c'est mon expérience de vie, surtout, sachant que de 17 à 19 ans, j'ai été en couple avec un homme avec qui j'ai subi des violences morales et physiques.
Hein. Donc, tu as été victime.
Ah oui, j'ai été victime. Et en fait, derrière tout ça, ben, voilà, comme c'est le sujet... Derrière une apparence rassurante, c'est porter un masque. Et moi aussi, je portais un masque. Et ça, il faut le dire. Parce que souvent, on va souvent accuser ces personnes-là. Mais nous aussi, on est dans l'acceptation des choses. Et que c'est là où il faut aller fouiller. Voilà. Pour une guérison beaucoup plus profonde.
Donc, une introspection.
C'est ça.
C'est ça.
Voilà. Après, à cet âge-là, ben, j'étais pas trop là-dedans. Voilà. J'étais pas dans tout ce qui était yoga, méditation, un petit plus sport de combat. Voilà. Ouais. Et je suis bègue aussi, hein. Là, on dirait pas, mais c'est un gros travail. Donc, forcément, je suis tombée sur une personne qui avait du charisme, qui était intelligent, qui était en école d'ingénieur et où j'ai trouvé une protection. Parce que, voilà, entre papa et maman, on avait des liens qui étaient bien. Mes parents, un couple parfait encore maintenant, mais j'étais la première de la tribu, donc c'était celle qui devait rester forte. Et le bégaiement, ben, c'était une grosse faiblesse pour moi. Et là, je tombe sur cet homme qui m'a, voilà, qui m'a apporté cette sécurité, cette écoute que je n'avais pas forcément dans mon foyer familial. Donc c'était jackpot pour lui. Et à cette époque, ben, j'étais pas trop forte dans les études et tout ça. Donc, cette relation, ben, voilà, c'était vraiment...
Ça sécurisait un petit
ça
peu.
Sécurisait.
Ça complétait, en fait.
Voilà. Et tout doucement, derrière, tout le monde l'appréciait, hein, parce qu'il avait vraiment du charisme, comme je disais. Je mets un point là-dessus. Il était parfait quand on le voyait. Moi, j'étais celle qui était plutôt renfermée, qui bégayait, qui parlait pas trop, qui avait quand même du caractère. Hein. Mm-hmm. Donc, on pouvait pas se dire que Déborah, voilà, avait des violences. Voilà. Personne pouvait... Personne ne pouvait savoir ça.
Enfin, subissait.
Voilà.
C'est ça, d'accord.
Moral et physique. Hein. Mm-hmm. Parce que comme j'expliquais, je n'étais pas dans les études. J'essayais de passer mon concours d'aide-soignante que je n'arrivais pas. Ben, c'est sûr, avec un mouvement comme ça, comment tu veux réussir ton concours. Et la personne était quand même un soutien jusqu'au jour où j'ai dit, ben non, stop, stop. Là, j'ai eu un déclic. J'avais beaucoup, beaucoup de messages, on va dire, qui me montraient des choses. J'ai frôlé la mort plusieurs fois. C'était quand je voulais le quitter. Et ça, c'était quelque chose de...
Quand tu dis « j'avais beaucoup de messages », ça veut dire quoi?
Ben, on va dire que moi, je suis quelqu'un qui est très proche avec les grands-mères à La Réunion. On sait que les mémés ont un rôle important. Et on va dire que, voilà, j'ai quitté l'île de La Réunion à l'âge de, il me semble, 13 ans. Donc, j'étais loin de mes grands-mères, mais j'avais toujours des... Je ressentais des présences qui étaient avec moi.
Ah. Et la connexion divine,
la connexion, hein, voilà,
l'univers,
exactement.
Et tout ça.
Mais dans mon jeune âge, ben, je ressentais, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et cette relation m'a appris beaucoup à ça. En fait, ça m'a fait souffrir, ça m'a poussé dans mes retranchements, jusqu'au jour où j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, où j'ai réussi à travailler dans un centre hospitalier, où j'ai réussi à monter en échelon petit à petit, où j'ai réussi à un moment donné, quand j'ai failli passer près de la mort, hein, parce qu'à un moment donné, quand il savait que je voulais le quitter, que j'avais en assurance, j'avais eu mon permis, ben, monsieur a commencé à aller dans des phases plus lourdes. Et là, ben, je suis partie. Et voilà, je m'en souviens, je mettais mes affaires dans des sacs poubelles. Je l'ai fait au moins 8 fois, ça. Jusqu'au jour où j'ai dit non, je ne peux pas.
Donc la violence est montée comme ça
Quand il a vu, je prenais de l'assurance. Mais dans cette histoire, je l'ai jamais accusé avec les gens. J'ai toujours porté cette écoute de moi-même. Voilà. Je savais que moi, j'avais quelque chose à travailler. Si j'ai vécu ça, c'est que je savais que je devais couper un cycle. Je savais au plus profond de moi, même si je n'étais pas dans la spiritualité ou autre, je savais au plus profond de moi que j'avais une leçon à tirer. Et justement, même les gendarmes qui me connaissaient à l'époque en France, que voilà, ils savaient, ils comprenaient pas pourquoi je portais pas plainte contre lui. Mais je disais non, j'ai pas envie, parce qu'il a sa vie aussi à construire. Il était jeune aussi, on avait juste un an de différence. Et c'était un sourdeux, hein, c'était quelqu'un vraiment. Et il y avait un gendarme qui l'avait cerné, Et j'ai dit non, je ne vais pas porter plainte, je vais faire ma vie, je vais me reconstruire et on verra. Et donc je me suis reconstruite, j'ai monté en échelon dans le médical et le médical m'a beaucoup apaisée parce que j'ai travaillé en médecine en service de fin de vie et j'apprenais à écouter l'histoire des personnes, pourquoi ils avaient des cancers, pourquoi ils... Et il y avait des histoires comme ça, le sacrifice, le cancer du foie qui est relié beaucoup à la colère. J'étudiais beaucoup ça et voilà, dans le fil du mouvement, après, ben, ça s'est transporté sur ma carrière de thérapeute. Et, ouais. Oula, ben,
et toi aussi, donc, tu as pu mettre des mots sur tes mots à toi.
Ah oui, dans toute cette écoute que quand j'étais soignante, j'ai appris à me reconnaître dans les histoires des personnes. J'aimais écouter, j'aimais comprendre pourquoi les gens étaient sur un lit et qui attendaient la mort. Et j'écoutais leurs messages, leurs préventions. Et j'avais toujours ce guide derrière moi, je savais que j'avais toujours ces présences derrière moi, qu'un jour j'allais faire quelque chose de ça. Et après, ben, je suis revenue à La Réunion pour ma grand-mère et ça a été la bénédiction dans ma vie. C'était pour elle, il fallait que je m'occupe d'elle. Mais en fin de compte, elle a activé beaucoup de choses en moi et elle est décédée en juillet de l'année dernière. Et je suis fière aujourd'hui que grâce à mon arrivée à La Réunion, j'ai pu ouvrir tous ces sens, me former, encore plus comprendre les maladies. Et voilà, donc maintenant j'accompagne les personnes, j'accompagne aussi les persécuteurs, ils viennent aussi en séance. Et dans tout ce mouvement, ben, une fois j'ai fait une première vidéo sur Facebook, c'était ma première vidéo, et mon ex m'a recontactée. Et il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux parce que j'avais fait une première page et tout ça, et j'avais vu un numéro suisse, parce qu'il est ingénieur en Suisse et tout ça maintenant. Mais je n'ai pas compris que c'était lui. Je pensais que c'était un de mes patients en Suisse parce que j'ai des patients aussi hors département. Et là, elle me dit, non, Deb, c'est moi. Et je lui dis, hein, t'es qui, toi? Ben, c'est moi, je voulais te parler.
C'est important, ça.
J'ai 34 ans.
Oui, oui.
Et là, soit c'est le Déborah et Gérald, il disait, fais beau, pardon.
Carrément, là.
Ah oui, lui, il me connaissait. Hein. Il me connaissait, je pouvais être très rancunière. Hein. Et d'où le développement personnel m'a appris à garder un calme. Et là, je lui dis, et là, je vais. Pourquoi tu m'appelles, toi? Il a dit, non, t'énerve pas, je veux te dire quelque chose. Je voulais te demander pardon. Et là, moi, je lui ai dit, ah, mais pardon, moi aussi, je te demande pardon aussi. Parce que j'avais aussi cette fragilité, j'avais aussi ce côté où je pouvais aussi réveiller en lui sa part d'ombre. Et oui, et là, il m'a dit, ben, waouh, t'as changé. Mais par contre, ce qui m'avait choqué dans son comportement et que je lui ai dit, et qu'il le sait, c'est qu'il a pris mon sosie. Une fille avec le même prénom que moi. Sauf que, ah oui, en Suisse là-bas, il n'y a pas trouvé le réunionnais, il a trouvé un Mauricien, il appelle Déborah, il ressemble à moi.
D'accord.
Il me l'a dit oui. Donc il a quand même ce truc en lui que lui-même, il est conscient. Et c'est là où j'ai compris, m'a dit, elle me dit, ah oulain, kaou. En rigolant.
Ok, il va faire rien pour lui.
Ben, il m'a demandé de l'aide et tout ça, mais voilà, je l'ai orienté vers d'autres mouvements.
Oui, oui.
Parce que voilà. Mais j'ai compris dans cette histoire que j'étais aussi fautif parce que j'avais une dépendance affective, j'avais besoin de reconnaissance, j'avais besoin d'affection. Et quand on vit dans... Il faut savoir, les parents créoles, ils ne font pas au câlin, ça. Ma papa n'a jamais dit à moi, je t'aime.
Ouais,
et
ouais.
Inconsciemment, l'enfant recherche ça chez un homme.
C'est quelqu'un.
Et
quand
on a ça, si ta blessure n'est pas guérie... Enfin, n'est pas accepté parce qu'on ne peut pas guérir la blessure. On peut enlever les masques. Ben, merci, bon Dieu. Ben, j'ai réussi à couper ce cycle très tôt et à pu reproduire ce cycle.
Mais en fait, quand on a ça, quand on a ce câlin, ce je t'aime-là, on abandonne tout le reste facilement.
Ah oui, ben oui. Parce que là où oblique, où là, il y a un droite. Oublie que Lila rabaisse à haut. Là où oublie que... Mais... Ça restait quelqu'un d'extrêmement gentil.
Ouais, mais quand il dit comme ça, tout il négocie sur l'oreiller, c'est vraiment ça?
Oui, il est vrai.
Hein? On a tendance à dire ça, tout ça fait, il négocie ses oreillers-là.
Mais il faut savoir si tu as une blessure d'abandon.
C'est, voilà, l'amour.
Oui.
Le...
Ce qu'on n'a pas reçu dans l'enfance en tant qu'enfant, c'est juste l'écoute. C'est pas pour tout le monde, mais souvent quand je vois avec mes patients, il y a quelque chose à purifier dans le karma familial. Si ce n'est pas nos parents qui ont vécu ça, ça peut être les ancêtres, d'autres personnes. On récupère des dettes karmiques. Et moi, je suis beaucoup spécialisée dans les dettes karmiques et les karmas familiales. Il y a de ça aussi, le relationnel, il y a le cancer. Il y a plein de choses qui sont reliées à des dettes karmiques. Mmh. Et donc, c'est à nous de comprendre, de ne pas se dire, c'est la faute de l'autre, de comprendre pourquoi il y a ça. Mmh.
Mmh. Que ça n'a pas été réglé dans l'ancien, que m'y récupère comme une dot là, et que m'y doit porter.
À l'époque, j'aurais jamais parlé à cœur ouvert de ça. Mm-hmm. Mais maintenant, non, je suis OK avec mon histoire. Mm-hmm. Et mes patients me demandent souvent, Quentin Tingen, comment il fait thérapeute. Mais ben, là, il connaît, il a un vécu derrière.
Non, mais il peut être perçu aussi comme on est très haut perché. Oui. Puisqu'il parle très peu de ça, en disant d'être karmique, c'est quoi cette histoire-là?
Bien sûr. Hey, oh. Ben, au début, on m'a traité de gourou. Hein.
Ah oui. De folle, etc.
C'est ça. Parce qu'en fait, dès que tu mets ton panneau thérapeute en énergie, mais après, je m'estime comme une thérapeute 2.0. Ça veut dire, la spiritualité, c'est pas de la religion. Il y a la religion et il y a la spiritualité. Et en fait, la spiritualité, c'est, et je le dis haut et fort, c'est l'écoute de soi. C'est vraiment l'écoute de son livre intérieur, de prendre soin de sa santé. Moi, quand les gens ils viennent, ils me disent, là, il ne fait pas commérage, je tire les cartes. Mais quand ils voient mon carte, ils voient un organe, un estomac, un foie, où tu peux lire à l'intérieur. Je leur dis, quand on tire les cartes là, on tire les cartes pour nous. On ne tire pas les cartes pour savoir si le bouc, ça va revenir. On ne tire pas les cartes pour
c'est
dire...
C'est pour son histoire personnelle, intrinsèque.
Exactement. Donc, mais continue à être une femme qui... Mais voilà, le week-end, m'y sorte, le sport, je casse les codes. Donc dans le gourou là, m'y monte azote, peut-être m'y à mon côté, m'y allume mon bougie, m'y purifie mon lieu, mais il y a le côté aussi de l'authenticité et que m'y reste Déborah.
C'est-à-dire que pour vous, Déborah, la nature est très, très importante.
Ah oui, oui. Ouais, la nature, c'est le sport. Mais, ou pas la moins nature, mais on va dire aussi le sport. Oh. Ah oui, les choses qui te permettent de te ressourcer, de te reconnecter.
Qui alimentent le corps, qui purifient, etc.
C'est ça, exactement. Et le suivi médical. J'ai de la chance de travailler avec des médecins aussi.
Qu'on a un réseau, finalement.
Oui. Et qui comprennent que dans leur patientèle, y a des choses qu'on n'explique pas que avec... une prise de sang. La prise de sang, elle va être importante. Le suivi médical va être important, mais il y a l'histoire.
Tiens-moi, justement, on parle du réseau. Est-ce que, où on voit notre patient de faire, par exemple, une prise de sang, on voit le médecin, mais est-ce qu'il y a le médecin aussi qui envoie chez eux en disant, allez, viens t'y chez Déborah, s'il vous plaît.
Oui.
Cet échange-là aussi.
Il y a ostéopathe, kiné, médecin, et voilà, il y a tout ce qui est aussi pour les travailleurs, donc tout ce qui est pour l'écoute des travailleurs et tout ça pour éviter les conflits. Parce que les conflits dans un travail touchent aussi les blessures de l'enfance. Mmh. Voilà, quand on a un collègue, il fatigue à nous, là, il est important d'aller voir un thérapeute. Pourquoi dans mon travail, moi, je n'ai pas aimé de telle personne? Regarde dans ton histoire familiale, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été écouté, que tu attires quelqu'un qui te persécute.
Mmh. Donc là où ça va rechercher dans l'histoire familiale proche, mais aussi dans les histoires passées,
exact,
ancestrales, comme tu dirais.
Après, j'ai une faculté que, là où vas-y, c'est un gourou ça.
Là où il y aura moins ou là?
En fait, j'ai un respect. Mmh. C'est-à-dire que comme j'explique aux personnes, si tu vois moi en soirée, pose pas ma question. À moi en soirée,
vive. Oui.
Non, en fait, c'est vraiment lieux, une autorisation. En fait, quand la personne arrive, je pose aucune question sur sa vie. Ça veut dire que je vais lire à travers elle. Je vais vraiment tirer les cartes, lire et lire ce qui s'est passé en elle, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan des parents. Et franchement, j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent aussi. Et ça me touche. Des mémés gramontes toutes.
Parce que m'y connaît des personnes qui sont très entrées dans le catholicisme et qui disent « Oh, mais comment on peut lire d'un carton ?»
Ah oui, par exemple, il y a des personnes qui, grâce au médecin, ils font confiance au médecin. Mmh. Mais sans le médecin, ils m'ont dit « Ne viens pas voir à moi. » Ah, ils étaient à moi, ils étaient à Outiaka. J'ai dit « Oui, mais il y a une façon de tirer les cartes. »
En plus, ces cartes... En rapport avec le corps humain.
Bien sûr, en rapport, même avec le tarot. Avec le tarot, je peux voir l'histoire familiale. Mais les cartes, là, il y a une croyance limitante. On croit que c'est de la médiumnité. J'ai une forme de médiumnité. Mais cette médiumnité me fait comprendre à la personne, vis bien l'instant présent. Parce que voit-on l'instant présent, là, il change de l'avenir.
On va conditionner après.
Voilà. Mais il veut que Bana soit vraiment indépendant. que même s'ils viennent en séance, moi, je transmets des protocoles. Et les protocoles sont tellement simples. C'est de la méditation. C'est l'aide de dégagement. J'ai créé la lettre de dégagement, justement.
Ça, là, c'est un produit que vous voulez créer,
ah,
là.
Ah oui. Ouais. Ah, ça.
La lettre de dégagement.
Mon maman. Ah là là.
Et joli, si, j'aime bien le mot.
L'ITIAM, pas que mité jure. Mais vu que j'étais bègue, ben, mes excès de colère permettaient de libérer. Et en fait, j'ai compris dans le médical, quand j'écoutais les personnes, c'était des personnes, ceux qui avaient le cancer souvent, TGA pas. J'ai dit, lui explique ça. Quand lui raconte, c'est des gens qui se sont beaucoup sacrifiés. Et en fait, ben, j'ai compris que l'importance de libérer sa colère sur feuille, de jurer un bon coup, même les gens qu'on aime pas, permet de libérer l'énergie négative, permet de libérer l'organe. Et ensuite, se recentrer. Parce qu'il y a des personnes, ils vont garder à l'intérieur. Et quand ils s'agardent le monde, et là, ils se mettent à l'intention sans rendre compte.
À l'intention.
Ah oui. Mettre l'intention. On peut faire de l'énergie négative sur une personne sans faire de la sorcellerie. Juste en gardant une colère. C'est pour ça, la lettre de dégagement que j'ai créée.
C'est joli,
permet
ça.
Permet de libérer.
Oui, en fait, ça rentre en connexion avec les énergies en face.
C'est ça.
Parce que tout est énergie.
Exact.
C'est ça, hein.
Et surtout, quand on est thérapeute, on a aussi des émotions. Comme j'ai toujours dit, un bon thérapeute, il travaille sur lui. Moi, je sais que j'ai mes mentors, Annie, qui habite en France, et j'ai ostéopathe, là, Saint-Paul, Claire. Bah, pareil. Et voilà, j'ai toute l'équipe qui... Je prends soin de moi pour mieux comprendre l'autre.
Et à où même, du coup, dans notre vie, Déborah, où arrive à nettoyer un peu toutes ces choses-là, parce qu'en face, il y en a du positif, mais il y en a du négatif aussi qui arrive.
Ben, j'ai eu des formations, j'ai été formée en énergie, donc j'ai pu rencontrer aussi des belles personnes quand j'habitais en Alsace, qui m'ont préparée à tout ça aussi. Et inconsciemment, voilà, vu que j'étais aide-soignante, tu as toute cette... ce truc de protocole.
On a déjà ça, déjà.
Que j'ai ramené en tant que thérapeute. C'est-à-dire que moi, j'aurai un centrage pour ne pas absorber l'énergie. Donc, il y a tout un protocole de sécurité quand chaque patient arrive. Ah, mais il a acheté beaucoup la bougie Saint-Paul seulement. Ton banné, vraiment, il dit, encore. La bougie, l'encens, le nettoyage de la maison aussi.
Ça, c'est important.
L'ordre.
Aïe, il faut mieux venir par ma case.
C'est important de laisser les énergies circuler.
Donc, c'est un peu le feng shui, là.
Pareil. Mm-mm. Ah oui, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Le fait de bien ranger, de ne pas accumuler les choses. Ah, noter. Oui, parce qu'avec mes grands-mères, des fois, il fallait nettoyer la case. Mais il n'y a pas noté, jette son benzafem.
Ben oui, c'est ça.
Il faut laisser respirer. Elle a été quadée à nous. Mais nous t'ai fait comprendre à elle que non, il fallait. Voilà, on désencombre. C'est important.
Il faut épurer. Voilà. Bon, vraiment, viens un coup la case, vraiment.
Mani Edaou.
Mais justement, comment on fait appel à ton service?
Alors, mon numéro de téléphone, il y a ma page Facebook aussi, Douce Essence, et mon Instagram.
Douce Essence, donc D-O-U-C-E, Essence.
Essence, avec le E, Essence.
D'accord. Voilà. On n'a pas parlé, mais on parle aussi des différents piliers.
Oui.
Alors, explique à nous ça un petit peu.
Au niveau de quoi, les piliers?
Au pilier indispensable vers la connaissance de soi. C'est des trucs que vous portez, ça?
On a
quatre piliers, parce que vous disiez comme ça, voilà, les valeurs essentielles à mes yeux dans l'accompagnement. Le premier pilier est indispensable vers la connaissance de soi, croire en sa valeur intrinsèque. Oui. Deuxième pilier concerne la relation aux autres.
Oui, la relation aux autres. On a souvent des effets miroirs. Moi aussi, à l'heure actuelle, même si je suis thérapeute, les gens vont réveiller des choses en nous. Voilà, soit on donne causement, soit on pète bataille, soit on dit, t'es nain, ça fait pour travailler là. Cette personne réveille quelque chose. Et moi, c'est vrai que je vis encore des choses qui n'est pas facile, mais que c'est OK, comme tout le monde vit des choses, mais ne pas chercher tout le temps un coupable. Voilà, moi, j'ai cessé de me justifier et je suis revenue, quand je vis quelque chose, quand quelqu'un ne me comprend pas ou que ne comprend pas qui je suis, je ne cherche plus à me justifier, à m'épuiser. Voilà, donc là, il y a un travail, par exemple, sur la légitimité. Donc, chaque relation qu'on a dans notre vie nous apporte. Moi, par exemple, ça, il y a tout le monde qui connaît, moi, je suis ça, mais il peut border mon famille facilement.
Ah bon?
Ah oui, mon cercle social est très important pour moi.
S'il est toxique, hasta luego.
Ah oui, et pourtant je les aime.
Hein. Oui, il n'empêche pas.
Mais je ne veux plus, voilà, je coupe très facilement parce que j'ai vraiment mon métier à préserver et mon estime.
Et que Bana, il comprend pas, c'est pas autre sens.
Non, il comprend.
C'est leur émotion à eux de gérer.
Et c'est pour eux aussi que je fais ça. C'est pour comprendre que, voilà, moi je veux plus. Voilà, on part dans ce truc où on s'oblige plus, on se sacrifie plus et on respecte l'autre aussi. Donc voilà, on me connaît beaucoup pour ça, que voilà, je peux être très direct.
Direct, savoir dire non quand il faut.
Mais avec discipline. Mais pour aussi parce que.
Pas de méchanceté, mais au moins que c'est poser les choses.
Exactement.
Alors, le cabinet se situe où ?
L'Ermitage, les Bains. Quartier pêcheur.
Ah, il y a eu un festival il n'y a pas très longtemps que ça.
Exactement.
D'ailleurs, on salue nos amis du quartier pêcheur, de l'association en fait, qui organise tout ça.
Oui.
Bah, Déborah, vous l'avez bien perché là-bas, hein, tranquille. Hein. Hein,
c'est grâce à Mémé. Mémé. C'est grâce à Mémé, à mon papa aussi. Mm-hmm. Et voilà, comme je dis aux personnes, ça c'est grâce aux ancêtres.
D'accord, voilà. Ça veut dire que Bana la donne à eau et où la prend en fait. Parce que des gens ils refusent ou la donne l'accès.
Sachant que j'étais la seule avec mon papa qui ne pratiquait pas la religion.
Ouais, comme par hasard. Hein.
Oui, ben, on respectait. Parce qu'on vient d'une famille malgache, malba, il fait semblant à ni. Mais. Ben c'est ça qui a fait que Bana n'a pas compris pourquoi à moi. Mais Mémé te connaît, il y a un secret.
Jusqu'à temps qu'il vient titiller au pout de bon.
Voilà, mais on a toujours eu ce respect, on a toujours eu le respect des religions, parce que voilà, c'est notre histoire. Mais j'avais toujours ce côté un peu différent, l'universalité.
D'accord. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles-là, on dit merci à tout le monde, merci Déborah
merci
pour cette belle présentation
Zoc.
Et cette douceur, parce que vraiment, hein, c'est vraiment un accompagnement tout en douceur.
C'est un travail, ça.
Ben, m'y vois, parce que,
c'est un travail sur soi.
Ben oui, mais en tous les cas, c'est un travail payant.
Merci. Hein?
Alors, merci beaucoup. Ben, je crois qu'on est au terme de cette émission. Effectivement, donc, les violences intrafamiliales, donc, elles peuvent être combattues que si elles sont nommées, reconnues et comprises dans toute leur complexité. Et aujourd'hui, nous avons eu des experts associatifs, des interventions, des témoignages, thérapeute aussi, voilà, pour venir nous parler de ça. Merci beaucoup. Merci à Thio Valeska qui était aussi la chef de file de cette émission.